Il n'y a pas besoin d'opposer la nature à l'économie, l'humain à l'économie, tout ça doit aller de pair.
J'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des managers qui m'ont toujours tiré vers le haut.
Seule la puissance d'un collectif permettra de relever les défis.
L'envers du décor est très précieux, ça vous apprend beaucoup sur les êtres et sur leur manière de se comporter.
Après, les questions s'arrêtent, on revient à son exercice, à son métier, quoi, et on fait ce qu'on doit faire.
Dans cette seconde partie, Jean-Pierre Levatte se dévoile un peu plus et nous explique comment il utilise aujourd'hui son expérience de dirigeant d'entreprise en difficulté. Il nous parle aussi de sa passion pour l'art et de ce qu'il écoute comme musique. Comment est-ce qu'on vit la fin des responsabilités publiques, le changement de rythme, ne plus être en situation de décider pour une entreprise ou pour le pays, comme lorsque vous étiez à Matignon, ne plus avoir de décision qui impacte les gens de son entreprise ou les Français? Comment on la vit cette période-là?
D'abord, je continue en changeant de fonction, bien entendu, mais dans deux domaines. Je suis devenu un peu conseil d'entreprise et je me suis spécialisé dans l'aide, c'est pas un hasard probablement, dans l'aide aux entreprises en difficulté, en restructuration financière.
Vous aviez quelques expériences?
Oui, j'avais un peu d'expérience, ouais. Donc en particulier, j'ai beaucoup contribué au redressement de la SOR. Et actuellement, je suis président du conseil de surveillance de Bourbon à Marseille, que nous essayons depuis 4 ans de sortir d'une situation extrêmement difficile.
Mais l'adrénaline n'est quand même pas la même chose que quand on est à la tête d'une énorme banque ou quand on est à Matignon où on prend des décisions qui ont une influence dans la vie des Français.
Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, si vous voulez. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui manque en France aujourd'hui. Je pense que tous les Français, enfin tous ceux qui en ont la capacité, devraient faire preuve à la fois de rigueur, d'honnêteté intellectuelle et de regarder les problèmes quand ils les voient passer, de les analyser. Donc je continue à mon modeste niveau à essayer de faire de la politique, à essayer d'expliquer aux hommes politiques français qui veulent pas le savoir, pour la plupart, quel est l'état réel de nos finances publiques. Je pense pouvoir dire, j'ai été l'un des auteurs principaux du tournant de la rigueur de Pierre Bonroy en 82-83. Les problèmes que nous avions à résoudre à l'époque, c'était une plaisanterie par rapport aux problèmes aujourd'hui.
À la taille de ceux d'aujourd'hui.
Une plaisanterie. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de me dire, si aujourd'hui j'étais à nouveau conseil d'un Premier ministre ou d'un Président, qu'est-ce que je lui dirais? Et donc, je continue à avoir ma vision assez noire de l'état de la France. D'où d'ailleurs mon bouquin précédent qui s'appelait « Réformer la France ». Qui est l'analyse des raisons pour lesquelles la France est tombée dans l'état où elle est aujourd'hui, et en même temps avec l'esquisse d'un programme de remise en ordre. Et je continue à travailler avec des hommes politiques.
Comment est-ce que vous expliquez qu'en France, nous ayons une aussi faible culture économique?
D'abord, quand on n'apprend pas à l'école, je ne vois pas où on l'apprend.
On peut écouter Radio Classique. Tous les matins, on a les classiques de l'économie, c'est la définition par Natacha Valla d'un concept économique
ou
d'une théorie
Natacha,
économique.
Oui, je connais Natacha, on s'entend très bien. Oui, mais le gamin de 15 ans, est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une entreprise? Vous savez, j'ai toujours enseigné, c'était un hobby permanent, j'ai fait 25 ans d'enseignement d'économie à l'école polytechnique.
Parce que vous êtes polytechnicien.
Non, parce que j'avais pas les diplômes qu'il fallait pour enseigner à l'université. Ça, c'est aussi les fantaisies françaises. Et les 10 dernières années, j'étais chargé de la chaire d'économie de l'entreprise. Vous savez comment je commençais? Avec des polytechniciens. J'ai dit, messieurs, aujourd'hui, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bilan et un compte d'exploitation.
Ouais, c'était une découverte.
Et c'était une découverte. Quand vous voyez ça, alors que la moitié ou le tiers des patrons d'entreprises, de grandes entreprises.
Viennent de Polytechnique. Ils ont appris entre-temps, je pense.
Je ne sais pas. Et vous savez, j'ai tendance à penser la même chose de l'ENA et des inspecteurs des finances.
Il était comment, Edouard Stern?
Ah.
Edouard Stern, c'est un banquier qui avait hérité d'une banque qui s'appelait la Banque Stern, dans laquelle il a
avec
fini par travailler.
Avec laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans.
Voilà. C'était un personnage très atypique. Disait-on, un banquier génial, mais c'était un banquier qui avait aussi des côtés un peu dangereux.
Écoutez, moi j'ai travaillé avec lui professionnellement. C'était un homme extraordinairement intelligent, extraordinairement cultivé, avec lequel les discussions étaient extrêmement intéressantes, mais qui, psychiquement, était malheureux.
Ce qui explique qu'il avait eu des comportements très borderline.
Ce qui explique que
de
temps en temps...
Et que ça s'est mal terminé.
Oui, c'est ça. Il n'arrivait pas à vivre avec lui-même, si je puis dire.
On dit souvent que vous êtes froid.
C'est froid?
Oui, c'est de la timidité ou c'est de la suffisance?
Pas du tout. Ça, absolument pas.
Ah bon, vous avez jamais effrayé les gens autour de vous, ni vos collaborateurs, ni les journalistes?
Je crois pas que vous trouviez un collaborateur que j'ai effrayé. Je veux dire, c'est vraiment pas dans ma nature. J'ai toujours discuté avec eux. Je leur ai toujours dit, messieurs...
Jamais mesdames.
À l'époque, il n'y en avait pas. Hein. J'en avais une au Crédit Lyonnais qui était la directrice de la trésorerie. Je l'ai vidée, donc vous voyez, j'ai un grave mancas. Hein.
Oui, c'est exactement ce que j'allais vous dire.
J'ai un grave mancas. Je leur disais, je n'ai pas besoin de courtisans autour de moi. Je veux des gens qui, éventuellement, manifestent leur désaccord avec ce que je propose. L'UAP, pour cette raison-là, c'était formidable, parce que l'UAP, j'ai appris un nouveau métier. L'UAP, l'assurance...
L'assurance,
c'est... Les banquiers ont tort de mépriser les assureurs. L'assurance, c'est formidable. Il y a 10 métiers différents, complètement différents. Donc, quand vous êtes président, vous pouvez pas diriger à la française, le PDG, je décide tout. C'est pas possible. Vous êtes obligé d'avoir une équipe. Vous êtes obligé de dire à votre équipe, expliquez-moi ce que c'est que l'assurance dommage, expliquez-moi ce que c'est que l'assurance habitation, expliquez-moi ce que c'est l'assurance construction, expliquez-moi ce que c'est l'assurance santé. Et vous êtes obligé de faire confiance aux gens qui gèrent chacune des branches. Ou si vous leur faites pas confiance, il faut les remplacer, mais c'est pas vous qui allez les remplacer. Il m'arrive encore d'être assez sec avec certains journalistes, surtout quand ils nient la vérité. Ce qui fut le cas.
Dans l'affaire Tapie.
C'est un sujet que vous n'avez pas soulevé.
Non, mais que vous épinglez effectivement plusieurs journalistes dans votre
ouvrage. Écoutez, c'est pas croyable. L'emprise sur le système d'information était incroyable.
Vous dites « j'ai besoin de rêver, sans cela je suis malheureux ».
Oui, rêver, le mot est peut-être trop fort. Mais oui, j'ai besoin d'un regard sur d'autres réalités que la vie professionnelle ou même... je vais vous faire un aveu. J'adore les œuvres d'art. Personne ne le sait.
Vous les fréquentez ou vous les fabriquez?
À part ma femme, personne ne le savait. Donc, dès que j'ai commencé à circuler dans le monde entier...
Vous avez commencé à acheter des œuvres d'art.
J'ai commencé à visiter les musées. Donc, j'ai visité partout où je suis allé.
Un musée, au moins.
J'ai visité les musées.
Vous avez traîné dans les salles de vente?
Dans les salles de vente. Et j'ai appris peu à peu et j'ai commencé à chiner. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis aperçu que M. Tapie disait n'importe quoi.
C'est ce que j'allais vous dire. Dans le livre, vous expliquez un passage qui est assez croustillant sur l'estimation des œuvres d'art, ouais, de Bernard Tapie. Enfin, je dévoile pas, il faudra aller lire l'histoire, mais c'est assez étonnant. Donc, la fréquentation des œuvres d'art.
Et donc, oui, parce que ça donne un éclairage formidable sur l'évolution de la société, de l'humanité, etc. Je vais vous donner juste un exemple, parce que pour moi, c'est un exemple récent, qu'on apprend à tout âge. Je vous recommande, et à nos auditeurs, je recommande d'aller à l'exposition de la Bibliothèque nationale sur les origines de la Renaissance. Pourquoi la Renaissance naît en Italie? Je savais que la Renaissance était née en Italie, mais pourquoi? Pourquoi à ce moment-là et pourquoi en Italie? Eh ben, c'est très simple. La réponse est très très simple. C'est que entre la Grèce et l'Italie, ils ont accumulé tous les monuments, les vestiges, les statues de l'Antiquité grecque et romaine. Et donc, la Renaissance, c'est la réintroduction de ces représentations-là de l'humanité, c'est-à-dire de la mythologie, dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça que c'est en Italie, et pas aux Pays-Bas.
Lorsque vous étiez enfant, j'ai lu que vous rêviez d'être archéologue.
Oui.
Ça rejoint ?
Oui, ça rejoint, absolument. J'étais littéraire dans le secondaire. C'est quand je vous dis que ma carrière, c'est une suite de hasard. J'étais littéraire dans le secondaire, je voulais devenir effectivement archéologue. Je me suis retrouvé à l'X, donc vous voyez,
C'est raté. Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui ?
La même chose, c'est-à-dire... Maintenant, j'achète des œuvres d'art. J'en ai toujours acheté, mais bien entendu, quand j'ai commencé à 20 ans, j'avais pas un sou, donc bon.
C'était plutôt des paris sur l'avenir.
Ouais. Mais je vais juste vous donner un exemple, parce que ma femme est passionnée par le Japon. Au point, elle est ancienne prof dans le secondaire en France, au point que après sa retraite, elle a commencé à dessiner des trucs japonais.
La
et puis elle comprenait pas ce qu'elle dessinait, donc elle s'est mise à apprendre un peu le japonais, à baragouiner le japonais, et donc on est allé, je sais pas, 10 fois,
au Japon.
15 fois au Japon, c'est-à-dire pour lui faire plaisir, je l'amenais au moins une fois par an, avant le confinement, et elle baragouinait suffisamment de japonais pour qu'on soit seul dans le Japon le plus profond, qui n'a rien à voir avec Tokyo ou Osaka, rien. Et donc j'ai découvert les estampes japonaises. J'ai découvert le lien entre les estampes japonaises et puis en France, Van Gogh, Monet, etc. Je me suis rendu compte que c'était deux formes d'art différentes qui s'étaient, si je puis dire, nourries réciproquement. Il y a une collection d'Hiroshige qui s'appelle les 36 vues du Mont Fuji. Alors ça, c'est mon côté systématique, bêtement systématique, organisé, etc., etc. Sur les 36 vues du Mont Fuji, il ne m'en manque plus que 3. Mais en même temps, je passe une partie de mon temps à aller voir sur Internet...
Plein d'autres choses.
Les estampes d'Hiroshige, je sais quelles sont les boutiques à Londres, je sais quelles sont les boutiques à Vienne, qu'il faut aller voir pour voir ce qu'elles ont, etc., etc. C'est la même chose sur les sculptures, j'aime beaucoup les sculptures germaniques, enfin du nord de l'Europe, du 15e siècle, même chose. Donc, et le moment formidable, c'est le moment où vous dites, ça, je l'apprends. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Mais voilà.
Et donc tout ça, c'est exposé dans votre maison à Kerkeran?
Oui, un peu à Kerkeran, un peu à Paris. C'est d'ailleurs pour ça que ça me fait rire quand vous me dites que je suis...
froid.
Froid, violent, je sais pas.
J'ai dit froid et j'ai dit cassant. Cassant. Vous le faites exprès, vous savez très bien. L'expression, c'était « vous faites votre tête de mérou ».
Quand oui,
on arrivait dans une salle et qu'on vous voyait avec cette tête-là, on se disait qu'on allait passer un sale quart d'heure.
Ça peut arriver, mais bon. Mais c'est pour vous rassurer, je ne peux pas vivre dans un endroit où je n'ai pas du plaisir à regarder ce qu'il y a autour de moi. Donc, tout ce qu'il y a autour de moi, je ne sais pas si c'est beau ou pas beau, mais pour
ça
moi,
plaît.
Ça a été choisi pièce par pièce. Et donc, alors que j'ai commencé tout jeune en arrivant à Paris, donc à 19 ans, je n'avais pas un sou, j'ai commencé à chiner des trucs qui valaient très peu d'argent... J'ai quasiment jamais rien vendu.
Ah oui, donc il faut des maisons.
voilà, c'est et je connais l'histoire de chacune
de ces objets.
Chacun de ces objets.
J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un morceau de musique ou une chanson qui vous accompagne, que vous écoutez souvent?
Je suis musique classique. Et alors classique, c'est-à-dire baroque. Donc pour moi Bach, Handel.
C'est tout?
Non, quand même pas, faut pas exagérer, faut pas me présenter comme sectaire, hein, quand même pas. Ça va jusqu'à Prokofiev, voilà. Donc, mais j'aime moins la musique, j'aime bien Brahms, j'aime pas la musique bruyante, juste, qui est trop explicite dans sa manifestation de joie ou de colère. J'adore Bach à cause de ça, parce que c'est la sobriété de Bach que je trouve extraordinaire. Il y a tout, et c'est sobre.
Merci à Yann Lovray pour l'enregistrement de cet entretien et à Mathieu Roch-Lagot pour la production de cet épisode, ainsi qu'à Lucille Cousin pour la mise en ligne et à Béatrice Mouedine pour la mise en forme. Je vous retrouve dans 15 jours.